Je vais vous proposer une lecture et un commentaire sur les deux premiers chapitres du livre de prophète Joël. Je me suis inspiré aussi de certains enseignants chrétiens connus de nous. Nous avons vu lors de l'étude du livre de la Genèse, au chapitre 3, l'arrivée de la désobéissance de l'homme à Dieu, donc l'introduction du péché. Le chapitre suivant, la violence qui peut habiter nos cœurs. Et oui, le péché nous habite, il m'habite, il fait tâche dans ma vie. Et donc, il y a de quoi nous sentir coupables. Aussi, je vous propose de lire ces deux chapitres du prophète de Joël, un texte qui dévoile le remède qui m'est nécessaire. Le remède, c'est un repentir qui permet à Dieu, grâce à l'œuvre de la croix, de me pardonner, de me rétablir et d'enlever toute culpabilité. D'abord une petite remarque. Les versets du chapitre 2 de la version d'Arbi, qui sont 28 à 32, constituent en fait le chapitre 3 dans les autres versions. Ce qui veut dire que dans la version d'Arbi, il y a 3 chapitres, mais dans les autres, 4. Un mot d'introduction. Le nom du prophète Joël, je ne sais pas si Joël, tu es d'accord, signifie l'Éternel est Dieu. C'est bien ça ?
Je suis d'accord.
Ce nom correspond bien au but du message du prophète, amener le peuple d'Israël à reconnaître que Dieu est leur Dieu. Deux fois, il est dit, par exemple, au chapitre 2, verset 27, et puis à la fin aussi, il est dit, « Moi, l'Éternel, je suis votre Dieu. » Alors, qui était ce prophète ? Joël vivait probablement à Jérusalem. Quand ? Il n'y a pas de date dans ce livre. Aucun roi n'est nommé. Par contre, le temple et les prophètes sont mentionnés, sont bien présents. Donc, d'après les spécialistes, c'est probablement au temps de Joas, qui commença à régner sur Juda à l'âge de 7 ans. Et le pouvoir était exercé alors par le grand prêtre qui tutorait l'enfant roi. Ce qui pourrait peut-être correspondre effectivement que le roi n'est pas mentionné. Alors, dans ce cas-là, Joël aurait écrit vers les 820 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire presque 3000 ans, on va dire. Et le prophète s'adresse aux Juifs à Jérusalem et annonce à la fois le jugement. Oui, parce que nous sommes tous pécheurs. L'arrivée du jour de l'Éternel, mais aussi une délivrance finale. Et cette prophétie a été donnée à l'occasion d'une grande famine qui a duré, catastrophique, et qui était due sans doute à deux facteurs principaux. Un, une sécheresse qui durait, et puis une invention de sauterelles ou de criquets pèlerins, je ne sais, c'est un peu la même famille, qui ont tout mangé et tout détruit. Ces deux plaies ont porté atteinte gravement à la prospérité du pays et en fait ces malheurs constituent le point de départ de la prédication de Joël. Les chapitres 1 et 2 concernent le présent de la vie du prophète, les sauterelles, la sécheresse, puis l'avenir tout proche. Mais le prophète annonce aussi des promesses de rétablissement. Un rétablissement motivé par les compassions divines. J'évoquerai un peu donc ces deux chapitres. Les chapitres 3 et 4 que je ne vais pas évoquer concernent l'avenir lointain. D'ailleurs, c'est introduit par une formule un peu vague, mais peut-être habituelle dans l'Ancien Testament, pour désigner l'avenir lointain. Exemple, au chapitre 3, verset 1, ou 2, 28 pour Vincent d'Arby, il arrivera après cela. Et puis, au chapitre 4, verset 1, Car voici, en ces jours-là et en ce temps-là. Et puis, 4, verset 18, il arrivera en ce jour-là. Ces deux derniers chapitres concernent l'achèvement du dessein de Dieu, que je n'aborderai pas. Alors, lisons chapitre 1er, verset 1, parole de l'Éternel qui parvint à Joël. Verset 2, écoutez, prêtez l'oreille. Et puis ensuite, je vais lire le verset 4, c'est l'invasion d'insectes et la sécheresse qui sont décrites d'une façon très imagée. Verset 4, ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré. Ce qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. Alors, quatre noms d'insectes. S'agit-il des différents stades de développement d'un même insecte ou s'agit-il de différents types de criquets ou de sauterelles? Paraît-il que les termes hébreux sont peu connus. Verset 6. Car une nation, et la traduction parole de vie traduit par une armée d'insectes. Une armée d'insectes a envahi mon pays, forte et innombrable. Elle a des dents comme celles d'un lion. Elle a les mâchoires d'une lionne. Alors, imaginons un instant cette armée de milliards et de milliards d'insectes s'abattant sur une contrée fertile et qui réduit en très peu de jours en désert. Quel désastre! Quelle épouvante! Et selon Internet, j'ai lu qu'en tout près de chez nous, en 2020, sur la corne de l'Afrique, donc l'Éthiopie, la Somalie, le Kenya et l'Ouganda, il y a eu des nuages en 2020 de criquets pèlerins. Un seul essaim peut contenir 200 milliards de criquets et peut s'étendre sur une étendue de la taille de Luxembourg. Et un tel essaim mange, paraît-il, l'équivalent, en termes de nourriture, de la nourriture de 80 millions de personnes en un seul jour. Donc c'est inimaginable. Et c'est arrivé du temps du prophète. Reprenons la lecture, verset 7. Elle a dévasté ma vigne, mon figuier. Elle a mis en pièces. Elle a complètement dépouillé, abattu. Verset 10, je saute des. Voilà. Les champs sont ravagés, la terre est en deuil, les blés sont ravagés, le vin est épuisé, l'huile dépérit. Verset 11, les cultivateurs sont découragés, les vignerons gémissent. Le blé et l'orge sont détruits. Toutes les récoltes sont perdues. Verset 12, la vigne est épuisée. Le figuier dépérit. Le grenadier, comme le palmier et le pommier, tous les arbres des champs sont secs. Oui, sécheresse. Toute joie s'est éteinte parmi les humains. Puis vient ensuite un appel à jeûner, à se repentir, à supplier. Je lirai juste un mot, verset 13. Lamentez-vous. Verset 14. Consacrez un jeûne. Criez vers le Seigneur. Et puis un rappel de la situation, verset 15. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme une destruction du Tout-Puissant. Notre nourriture disparaît sous nos yeux. La joie et la gaieté quittent le temple de notre Dieu. Verset 17. Les semences ont séché sous les mottes. Oui, sécheresse. Les granges sont dévastées. Les magasins sont rasés. Le blé est épuisé. Verset 18, comme les bêtes gémissent, les troupeaux de gros bétail errent en pleine confusion parce qu'ils n'ont pas de pâture. Même les troupeaux du petit bétail en pâtissent. Puis vient la prière du prophète, verset 18. Je vais lire verset 19. C'est toi, Éternel, que j'invoque. car le feu a dévoré les pâturages du désert. Les flammes ont brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes de la campagne soupirent aussi vers toi, car le lit des torrents est à sec. Oui, sécheresse. Et le feu a dévoré les pâturages du désert. Alors, quelle désolation dans cette description. C'est plutôt inquiétant. La moisson est perdue, donc aucune prospérité. Pas de fruits sur les arbres. Plus de fécondité. La joie et la gaieté quittent le temple de Dieu. Sans doute, plus de vie spirituelle. La joie humaine disparaît aussi. Et c'est une dépression qui touche tous les domaines de la vie. Je souhaite aborder quatre sujets. Le premier, maintenant par rapport au jour de l'Éternel, qui est mentionné par Joël au verset 15 qu'on vient de lire, et cinq fois en tout dans son livre. Alors, suivant les versions, c'est le jour de l'Éternel ou le jour du Seigneur, c'est la même chose. Dieu peut sembler inactif pendant une période plus ou moins longue, mais vient un jour où Dieu se montre, un jour où Dieu juge et un jour où Dieu sauve. Le jour de l'Éternel est le jour peut-être choisi spécialement pour se montrer, pour se manifester en puissance. Alors Dieu va juger les méchants, va sauver les personnes qui se repentent. Et en ce jour-là, Dieu va conclure peut-être une phase de l'histoire du peuple, ou peut-être va conclure l'histoire tout entière. Et dans le chapitre 1 et 2, le jour de l'Éternel, c'est pour conclure une phase de l'histoire du peuple. Lisons ces versets. Il y a comme une progression. Chapitre 1, verset 15. Ah, quel jour ! Le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme une destruction du Tout-Puissant. Cela nous rappelle que Dieu ne tolère pas la vue du mal. Et Dieu doit purifier avant de bénir. Chapitre 2, verset 1. Sonnez de la trompette en Sion. Lancez des acclamations dans ma montagne sacrée. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et d'obscurité épaisse. Oui, sans doute que comme les sauterelles sont tellement nombreuses que ça masque un peu, ça fait comme un nuage qui masque le soleil. C'est un peuple nombreux et fort, tel qu'il n'y en a jamais eu. Et qu'il n'y en aura plus dans toutes les générations à venir. Au chapitre 2, verset 11, le Seigneur fait retentir sa voix devant son armée. Sa troupe est immense. Celui qui exécute sa parole est fort, car le jour de l'Éternel est grand. Il est très redoutable. Qui pourra le supporter ? Pour le peuple de Dieu, Dieu était leur Dieu. Donc, ils pouvaient peut-être penser que le jour de l'Éternel serait leur triomphe. Ça serait leur victoire. Mais le prophète annonce le contraire. C'est le jugement. Un jour désastreux pour eux. La purification est nécessaire. Est-ce nécessaire pour moi dans ma vie aujourd'hui? Sans doute. Nous sommes tentés de nous faire une image d'un Dieu arrangeant, à nos côtés pour nous servir, comme un peu une assurance vie pour nous garantir, pour nous mettre à l'abri des aléas de la vie, des guerres, de destruction massive, de catastrophes naturelles. Mais une telle vision de Dieu est erronée. Et pour ajuster notre vision, il est parfois nécessaire de revenir à ce jour de l'Éternel. Alors bien sûr, Dieu ne cesse pas d'avoir compassion. Et on va le voir plus loin, dans son appel à la repentance et à ses promesses. Après ce jour du Seigneur, un deuxième sujet que je voudrais aborder. Un point peut-être difficile, parce que dans ce texte, c'est par des malheurs que Dieu avertit. Avertit la venue du jugement. Ces malheurs, ces fléaux et donc cette destruction viennent à certains écarts de la part de Dieu. Lisons chapitre 2, verset 25. Dieu dit, « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. » Si on ne se repent pas, Dieu envoie des signes pour annoncer la venue de son jugement. Comment ça, de telles plaies envoyées par Dieu lui-même, ça heurte notre compréhension. Quand les médias nous apprennent l'arrivée d'un séisme dans un endroit du globe pour causer de grands malheurs, nous sommes tristes. Et a priori, nous ne pensons pas que c'est un jugement divin. Dans ce texte, le prophète Joël apprend à ses contemporains à considérer ces fléaux comme des jugements divins. Alors ceci amène une réflexion délicate sur la signification des événements difficiles de la vie aujourd'hui, en France, dans le monde. Les malheurs, les catastrophes. Il y a une différence entre la période de l'Ancien Testament et la période du Nouveau Testament. Et la période actuelle. On pourrait dire que dans l'Ancien Testament, les bénédictions, comme les malédictions, les malheurs, les châtiments, étaient principalement terrestres. Mais il ne faut pas être absolu sur ce point, mais peut-être principalement. Dans le Nouveau Testament, les bénédictions sont plutôt spirituelles, même si elles peuvent entraîner des aspects physiques et bien sûr et matériel. Mais la Nouvelle Alliance est établie avec des cœurs. La Nouvelle Alliance est établie avec un peuple spirituel. Un autre élément, le Seigneur s'est révélé lui-même comme celui qui a souffert. Et on s'est rappelé de ses souffrances. Pourtant, il était le béni de Dieu. Il était béni, et pourtant il a souffert. Qui conduit peut-être à envisager que le sens de la souffrance a été changé en partie. Le Seigneur a vécu dans la pauvreté, et pourtant il était le béni de Dieu. Donc la pauvreté, lui qui était béni, montre que le signe, enfin de la, le sens de la pauvreté a sans doute changé en partie. Ces diverses constatations montrent qu'il y a sans doute une grande différence entre l'époque de l'Ancien Testament et l'époque d'aujourd'hui. Cependant, et osons dire cependant, on risque d'oublier qu'un malheur, aujourd'hui, peut parfois être un châtiment de Dieu par lequel Dieu souhaite nous réveiller, nous alerter, nous faire réaliser que nous faisons fausse route. Aussi, je cite Henri Blocher, « S'il nous arrive un événement sérieux, individuellement ou collectivement, peut-être est-il utile de nous interroger. Est-ce que Dieu veut m'avertir? Est-ce que Dieu veut me parler ?» Alors, bien sûr, je pense que ce n'est pas toujours le cas. Et nous pouvons considérer parfois que ce n'est pas du tout un jugement, mais une épreuve pour que nous soyons manifestés fidèles, comme le dit Jacques au chapitre 1er, une épreuve pour grandir dans la foi, une épreuve pour apprendre de lui, pour grandir en prière, pour devenir plus patient, pour être plus sage, peut-être plus dépendant. En revanche, dans l'Ancien Testament, quand Dieu envoie un malheur, c'est assez clairement pour provoquer la repentance. Et c'est donc le troisième sujet que je vais aborder, la repentance. Alors, repentance, peut-être c'est un mot peu usité maintenant, un peu vieillot. On parle aussi plutôt de repentir. Bon, enfin, on se comprend. Dans le chapitre 1, le prophète avertit le peuple qu'une armée vient le détruire parce qu'il vit sans Dieu. Et donc, le prophète exhorte le peuple à se repentir de son péché et ainsi à éviter l'invasion des ennemis. Alors, est-ce que le mot repentance signifie changer consciemment de direction, cesser de pécher, demander à Dieu son pardon et vivre dans l'obéissance à Dieu? En voiture, parfois, on fait demi-tour. Ben, est-ce que la repentance, ça serait aussi un demi-tour pour s'éloigner du péché et aller vers Dieu? Dieu est toujours prêt à nous pardonner, à vous comme à moi. Dieu ne change pas. Dans le chapitre 2, alors dans les versets 1 à 10, il est rappelé que le péché mérite le jugement. Le verset 11 nous rappelle que Dieu est au contrôle. Dans les versets 12 à 17, Dieu appelle à se repentir. Puis dans les versets 18 à 27, Dieu rétablit par sa grâce. Et ça sera mon dernier point. Le premier verset du chapitre 2 commence par un coup d'éclat sonné de la trompette. Une trompette est utilisée pour faire sursauter les gens, de la même manière qu'un réveil peut mettre brusquement fin à notre sommeil et nous oblige à nous réveiller. Ce verset 1, qui est quand même de mauvais augure, se poursuit « Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient. » La conséquence d'ignorer Dieu dans notre vie, la conséquence de se rebeller contre lui, c'est le jugement. Et ce message s'adresse à nous aujourd'hui. Le verset 2, le chapitre 2, fournit une description terrible, un jour de ténèbres, d'obscurité, un jour de nuée et d'épaisses ténèbres. Et puis au fur et à mesure que les versets progressent, on peut voir les menaces arrivent de plus en plus près du peuple. Le verset 9 du chapitre 2, c'est comme le point culminant, parce que l'invasion, est-ce que cette invasion de sauterelles arrive dans la ville? Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, s'introduisent dans les maisons, entrent par les fenêtres, comme des voleurs. Imaginons dans nos placards plein de sauterelles, dans notre lit. Mais au verset 11, l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et celui qui exécute sa parole est puissant. Alors ce changement soudain dans le texte peut capter notre attention parce que Dieu nous rappelle que c'est lui qui est aux commandes, même à la tête d'une armée ennemie. Et dans le contexte mondial actuel, est-ce que, voilà, rappelons-nous qu'en tout cas que Dieu n'est pas pris au dépourvu. Au verset 11, c'est son armée, son camp, sa parole. Alors, rappelons-nous que Dieu n'est pas pris au dépourvu aujourd'hui dans les événements mondiaux, comme dans les événements de notre Église, comme dans ma vie personnelle. Quoi que je fasse, Dieu est là. Dieu n'est pas pris au dépourvu. Il est pour moi, il a un projet de grâce. Lorsqu'on se trouve dans une situation qui n'a pas de sens pour nous, lorsque nous souffrons, le verset 11 nous rappelle que Dieu est au contrôle. Dieu contrôle le jugement, mentionné à la fin de ce verset. Hein, le jour de l'Éternel, verset 11, le jour de l'Éternel est grand, il est très redoutable. Qui pourra le supporter ? Ce verset se termine par une question effrayante. Qui peut supporter ? Personne. Aucun d'entre nous ne le peut. Heureusement, les versets suivants montrent que Dieu est, qui contrôle les armées pour servir le jugement, c'est le même Dieu qui contrôle le pardon. Des pécheurs qui se repentent. Et ceci nous amène au verset 12 à 17 qui nous parle de l'invitation de Dieu à la repentance. C'est donc mon troisième point que je continue. C'est le point principal de ce livre, c'est l'offre du pardon divin. Lisons les versets 12 et 13. Maintenant, ah, c'est maintenant, encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs, des lamentations. Ne déchirez pas vos vêtements, mais votre cœur, et revenez au Seigneur, votre Dieu, car il est clément et compatissant, patient, grand par la fidélité, et il regrette le mal qu'il fait. Ce verset 12, commençant par « maintenant encore », est plein d'espérance. Il nous rappelle que Dieu est toujours prêt à nous pardonner, à vous et à moi, maintenant. On a déjà lu au chapitre 1, verset 13, « lamentez-vous, consacrez un jeûne, criez vers le Seigneur ». La repentance fait partie de la vie quotidienne du chrétien. Quelqu'un a dit, je ne connais pas celui qui l'a dit, mais enfin je l'ai lu, qui citait lui-même, je cite, « Si la foi peut être comparée à une inspiration d'oxygène frais nécessaire pour vivre, la repentance peut être comparée à une expiration qui expulse l'air toxique de nos poumons. Aussi souvent que quelqu'un inspire, il doit aussi expirer. De même que nous vivons à chaque instant par la foi dans le Seigneur, de même nous devrions mourir à notre péché à chaque instant par la repentance devant le Seigneur. Fin de citation. Alors la repentance caractérise-t-elle ma vie ? Je dois confesser devant vous aujourd'hui que peut-être pas suffisamment. Lorsque nous prions, confessons-nous nos péchés à Dieu. Lisons verset 14. Qui sait s'il ne remèdera pas, s'il n'aura pas de regrets, s'il ne laissera pas derrière lui une bénédiction. Verset 15. Sonnez la trompette en Sion, consacrez un jeûne. Verset 16. Réunissez le peuple, consacrez une assemblée, rassemblez les anciens, réunissez les enfants, même les nourrissons au sein de leur mère. Que le marié sorte de sa chambre, la mariée de sa tente. Qu'entre le vestibule et l'autel pleurent les prêtres, les officiants du Seigneur, et qu'ils disent « Seigneur, épargne ton peuple ». Et à la fin, pourquoi dirait-on parmi les peuples « Où est leur Dieu ?» Alors ce texte éclaire divers aspects du repentir, de la repentance. Je vais noter cinq aspects. Versets 12 et 13, on voit que la repentance doit être intérieure. C'est le cœur déchiré, mais pas les vêtements. On sait qu'en 1 Samuel 16, il est dit que les hommes regardent à l'apparence extérieure, mais Dieu regarde au cœur. Et le prophète dit, « Revenez à moi de tout votre cœur. » Parce que Dieu veut mon cœur. Deuxième aspect, au verset 12, la repentance est symbolisée par le jeûne et les sacs utilisés comme vêtements. Ce qui, dans l'Ancien Testament, n'est pas du tout un moyen de pression pour Dieu, mais c'est un moyen d'expression, de l'humiliation, de la détresse. C'est une expression d'une disposition intérieure du cœur. Troisième aspect, verset 16, Dieu souhaite que la communauté ça nous adresse donc à nous tous ensemble, prennent position dans cette attitude de repentance. Parce que les membres sont liés, nous sommes liés les uns aux autres. Et donc il est parlé des anciens comme innocents, les vieux comme les jeunes, même ceux qui sont en voyage de noces. Tout le peuple. Certes, la repentance est individuelle, mais il y a aussi une composante collective. Ce verset 16 insiste sur l'implication de tous dans la repentance, parce que ça nous interroge collectivement, parce que si un frère ou une sœur de notre assemblée, je dirais, fait une bêtise ou se comporte mal, cela nous touche tous. C'est un affaiblissement pour tous. On fait partie tous du même corps, dit Paul en 1 Corinthiens 12. Un corps, cette comparaison. Si ma main gauche se blesse, ma main droite va sans doute s'activer pour mettre un pansement sur la main gauche. Et puis quand la main gauche souffre, c'est tout le corps qui souffre. Et puis la main droite, en soignant, en mettant le pansement, ne va pas se moquer de la main gauche en disant « mais t'es maladroit ». Alors que je serais peut-être enclin à avoir du mépris ou un jugement ou une moquerie pour quelqu'un qui serait... Voilà. Cette cohésion du corps de Christ se vit aussi dans la repentance. Quatrième aspect de la repentance, au verset 17, le prophète exhorte tout spécialement les serviteurs qui conduisent le peuple, exhorte ses serviteurs à prier. Donc tous ceux qui ont une responsabilité particulière, tous ceux qui ont un ministère particulier, doivent aussi être dans une attitude de repentance et de prière. Puis un dernier aspect, verset 13. La repentance s'appuie sur la compassion de Dieu, parce qu'il est dit, Dieu est plein de grâce, miséricordieux, lent à la colère, grand bonté. Il se repent du mal dont il a menacé. On sait que dans le livre des Lamentations de Jérémie, il est dit, le Seigneur ne rejette pas pour toujours. Versets 31 et 32, 33. Mais s'il afflige, il a aussi compassion, selon la grandeur de ses bontés, car ce n'est pas volontiers qu'il afflige et contriste les fils des hommes. Je crois que quelqu'un avait dit, je ne sais pas qui, mais que la raison que nous avons d'espérer, c'est le caractère même de Dieu. Dieu est un Dieu de grâce, de miséricorde, de pardon, de patience. Et les mots, il regrette le malheur qu'il envoie, est-ce une manière de dire que Dieu ne nous inflige pas le jugement que nous méritons? Un résumé de ces cinq aspects de repentance, une repentance du cœur, avec des signes exprimant l'humiliation, comme le jeûne, une repentance individuelle, mais aussi collective, incluant particulièrement ceux qui sont responsables, une repentance qui s'appuie sur la compassion divine, qui m'amène au dernier point, la grâce de Dieu. Une compassion divine que nous pouvons lire dans ce texte. Parce que ce texte poursuit au verset 18 du chapitre 2. Dieu a été en effet ému par la repentance du peuple. Et dans verset 18, dans la version Nouvelle Bible seconde, il est dit que le Seigneur s'est pris d'une passion jalouse pour son pays. Il a épargné son peuple. Dans la version français courant, le Seigneur aime son peuple. Pays d'un amour ardent. Et on peut noter ces mots précieux. Dieu a épargné son peuple, ou notre traduction, a eu pitié de son peuple. Dieu est toujours à l'origine des bénédictions. Et là, ce n'est plus un « revenez à moi !» Mais c'est tout simplement une affirmation, l'Éternel aime son pays d'un amour ardent. Donc c'est comme si le prophète Joël, au lieu de dire « faites des choses, repentez-vous », là il dit « l'Éternel fait des choses, il aime ». L'amour de Dieu se montre en agissant. Il annonce ce que le Seigneur a fait. Et Dieu annonce une réparation de tous les malheurs qu'il avait dû envoyer à ce peuple, on pourrait ainsi dire à titre pédagogique. Les sauterelles ou les criquets vont être amassés dans une terre aride et désolée au verset 20. Je lis le verset 20. « J'éloignerai de vous celui qui vient du nord, je le bannirai vers une terre desséchée et dévastée. » Son avant-garde vers la mer orientale, son arrière-garde vers la mer occidentale. Sa puanteur s'élèvera, son infection s'élèvera, car il a fait de grandes choses. Alors il va y avoir des amas de sauterelles, tant que vous êtes envoyé par Dieu pour éliminer toutes ces sauterelles, elles vont s'amasser. Mais ça va, il y aura une puanteur justement, au soleil. Mais ça sera loin, ça sera du côté de la mer morte, ça sera du côté de la mer Méditerranée. Cette invasion de sauterelles a fait de grandes choses dans ses ravages à la fin du verset 20, mais juste au verset 21 suivant. C'est Dieu qui fait aussi de grandes choses. Verset 21, « Terre, n'aie pas peur. N'aie pas peur, sois dans l'allégresse. Réjouis-toi, car le Seigneur fait de grandes choses. » Et aujourd'hui, sur la terre, Dieu fait de grandes choses. Verset 22. Bêtes de la campagne, n'ayez pas peur. Car les pâturages du désert reverdissent. Les arbres portent du fruit. Le figuier et la vigne donnent leur richesse. Verset 23. Et vous, fils de Sion, soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous dans le Seigneur, votre Dieu. Car il vous donne la pluie d'automne salutaire. Autrement dit, une pluie qu'apporte le salut. Et notre traduction, je pense dans la version Darby, il est dit « dans sa mesure, une pluie dans sa mesure », autrement dit « dans un bon dosage ». Donc c'est une pluie qui apporte le salut. Et ce n'est pas une pluie comme un épisode Sévenol qui ravage tout. Non, c'est dans sa mesure. Dieu fait descendre, à la fin du verset, la verse pour vous, une pluie d'automne et une pluie de printemps, comme par le passé. Et puis au verset 24, les airs, enfin les airs c'est les surfaces planes où on battait le grain de blé, les airs se rempliront de blé, les cuves regorgeront de vin et d'huile. Et ce verset 25, je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Verset 26, vous mangerez, vous serez rassasiés, et vous louerez le nom du Seigneur, votre Dieu, qui agit envers vous de façon étonnante. Mais plus jamais mon peuple n'aura honte. Verset 27, ainsi vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis le Seigneur, votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre. Plus jamais mon peuple n'aura honte. Donc non seulement les sauterelles disparaissent, mais la sécheresse disparaît aussi. Au verset 23, la pluie donnée dans sa mesure, dans le juste dosage. Dieu est un Dieu de grâce. Et pourtant, Dieu serait juste de condamner le peuple pour son péché, comme il serait juste de nous condamner, vous et moi. Mais précisément parce qu'il est un Dieu de grâce, il nous appelle à nous repentir et il nous promet de nous pardonner. Nous ne devons pas craindre le jugement, mais on peut trouver notre assurance dans les paroles du verset 21 et 23. C'est deux fois, versets 21 et 23, « Sois sans crainte, réjouis-toi, sois dans l'allégresse. » Mais comment est-ce possible? Parce que le plan de Dieu, ça a été d'envoyer Jésus pour qu'il prenne sur la croix, à son compte, le jugement que nous méritions. La culpabilité de nos péchés, notre honte. En Colossiens 2, Paul, Colossiens 2, verset 13-14, je vais lire en français courant, Paul écrit « Autrefois, vous étiez comme morts à cause de vos fautes. » Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions légales. Il a supprimé ce document, il l'a cloué sur la croix. Comme l'indique Paul, la promesse du pardon et du rétablissement qui était offerte au peuple du temps du prophète a été accomplie sur la croix. Et dans le chapitre 2, verset 10, le prophète écrit à une vision de la terre qui tremble, du soleil et de la lune qui s'obscurcissent. On se rappelle sans doute que dans l'Évangile, lorsque le jugement de Dieu a été prononcé sur le péché, lorsque Jésus a été cloué sur la croix, il y eut des ténèbres sur toute la terre. La terre trembla, les rochers se fendirent. Donc ce chapitre 2 nous rappelle que Dieu est un Dieu de jugement, effrayant, mais un Dieu de grâce. Et sa grâce transforme nos vies. Nous nous débattons parfois dans la culpabilité et la honte, ne parvenant pas à intégrer dans notre vie la pleine réalité du pardon divin. Alors, peut-être, pensons-nous à un péché qu'on a commis par le passé, ou plusieurs péchés qui nous viennent toujours à notre mémoire. Est-ce qu'on se sent encore coupable? Est-ce qu'on ressent encore de la honte? Mais ces versets d'Écriture nous assurent que Dieu restaure, que Dieu élimine la culpabilité et la honte dans nos vies. Il nous promet la paix, la joie. Je vais relire ce verset 25. « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet, la chenille. » Et n'oublions pas que c'est Dieu lui-même qui fait cela. Versets 26 et 27, il est écrit à deux reprises que mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Donc on peut, comme on voit dans Lévitique, marcher la tête haute, la tête levée. Parce que ma culpabilité, ma honte, ça a été pris par Jésus sur la croix. Et on peut marcher fièrement, pas comme le roi Louis XIV qui peut être fier et qui marchait la tête haute. Non, on peut marcher la tête haute parce qu'on est avec celui qui est le grand, le vainqueur, le Christ qui est grand et qui nous a lavé de tout péché. Et pour terminer, nous pouvons reprendre pour nous-mêmes les mots de ces versets 26 et 27 et dire, on peut le dire ensemble, hein, nous mangerons et nous serons rassasiés. Nous louerons le nom de l'Éternel, notre Dieu, qui a fait des choses merveilleuses pour nous. Et nous ne serons jamais dans la honte. Parce que Dieu est au milieu de nous, parce qu'il est le Seigneur, notre Dieu. En conclusion, ce livre du prophète Joël apporte cette certitude que je peux accueillir maintenant la vie de Dieu en moi, vivre les effets bienfaisants de son pardon, de sa restauration, autrement dit, les effets bienfaisants de la vie éternelle qu'il m'a donnée. Je termine, le verset 23 du chapitre 2 nous dit « Soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous dans l'Éternel, votre Dieu. » Autrement dit, c'est comme si le prophète disait « Mais chantez !» Alors je vous propose de chanter. Dans le recueil Reflet, numéro 115. « Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. »